Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Notre série consacrée à l'économie de l'électricité s'achève aujourd'hui par un débat. Après avoir examiné hier les promesses et les limites de la voiture électrique, nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'avenir du mix énergétique français. Depuis quelques années, les scénarios se multiplient pour montrer que le passage à une électricité 100% renouvelable est possible sur le plan technique et économique. Plusieurs pays européens, dont l'Espagne, ont déjà annoncé leur intention de se tourner vers une électricité produite exclusivement par le vent, le soleil et l'eau. Un débat particulièrement vif en France où le nucléaire, énergie décarbonée, continue de fournir plus de 70% de notre électricité. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du futur mix électrique français en compagnie de David Marshall, directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, en compagnie également d'Henri Prévost, consultant en politique de l'énergie, auteur de cet ouvrage « Avec le nucléaire, un choix réfléchi et responsable » publié au Seuil, et d'Yves Marignac, porte-parole de l'association Négawatt et co-auteur du scénario Négawatt 2017-2050. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho et Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Yves Marignac, David Marshall et Henri Prévost, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, les scénarios défendant un mix électrique 100% renouvelable se multiplient à la fois en France et dans le monde. L'eau, le soleil et le vent comme source exclusive d'énergie, c'est plus de l'ordre de l'utopie, Yves Marignac ?
Alors l'eau, le soleil, le vent, mais également la biomasse qu'il ne faut surtout pas oublier dans l'équation. Mais effectivement, c'est quelque chose qui relevait il y a peut-être encore 20 ans ou même 10 ans de l'utopie et qui aujourd'hui, vu les progrès de ces énergies renouvelables, à la fois techniquement et économiquement, est tout à fait envisageable. C'est un avenir dans lequel on peut se projeter. C'est un avenir qui est conditionné toutefois par le fait de cesser de consommer toujours plus d'énergie et de s'engager sur le chemin évidemment d'une modération de la consommation d'énergie. C'est à ce prix que les énergies renouvelables peuvent fournir à terme toute l'énergie dont on a besoin.
On va parler de la sobriété et de l'efficacité énergétique, mais d'abord, David Marshall, une électricité 100% renouvelable qui est possible sur le plan technique et économique en France. C'est également la conclusion de la dernière étude de l'ADEME qui a été publiée en décembre dernier et que vous avez coordonnée.
Alors, 100% renouvelable, c'est peut-être excessif. En tout cas, on regarde à l'ADEME des scénarios avec une forte part de renouvelable et on a souhaité effectivement éclairer ces questions-là, techniquement, économiquement, à travers des études les plus scientifiques possibles, basées sur des outils de modélisation vraiment à la pointe, tels que ceux qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau. Et oui, effectivement, les scénarios aboutissent à une pertinence à 95% des énergies renouvelables dans le mix électrique. En 2060,
voilà. Alors ce sont des scénarios que vous contestez pour votre part, Henri Prévost, non pas sur le plan technique, mais vraiment sur le plan économique.
Oui, mais je ne conteste pas sur le plan technique. Hein. J'ai beaucoup étudié les scénarios de l'ADEME. Je tire mon chapeau à l'ADEME de nous secouer un peu hein, avec ses perspectives effectivement un peu décoiffantes. Et voilà, c'est la première fois que j'ai vu que l'ADEME faisait un scénario sans nucléaire et sans énergie fossile. Je me dis, comment est-ce possible? Et c'est très difficile de discuter avec l'ADEME et avec quiconque qui utilise des modèles compliqués hein, pour arriver à leur conclusion. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire son modèle de simulation soi-même. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et vous êtes arrivé à des conclusions différentes.
Et qui équilibre la fourniture et la consommation heure par heure. Et puis, pour faire bon poids, je l'ai publié. Donc, je crois que je suis le seul à publier un modèle de simulation qui soit praticable, je veux dire. Voilà. Et alors, je retrouve effectivement les conclusions de l'ADEME. Il est possible de faire de l'électricité sans éolien et sans nucléaire et sans énergie fossile.
Mais cela coûterait plus cher, c'est ça la conclusion
voilà,
de votre rapport.
Ça coûterait beaucoup plus cher et justement encore, je crois qu'il ne faut pas oublier l'objectif, qui n'est pas de faire de l'énergie renouvelable, c'est d'éviter les émissions de CO2. C'est ça notre objectif. Hein. Je reviendrai très souvent dans cette émission sur cet objectif. Mmh.
Voilà. Alors on va entrer évidemment dans le détail des différents scénarios que, sur lesquels vous avez travaillé les uns et les autres. Mais d'abord, allons sur cette question de l'électricité 100% renouvelable qui est possible à condition de diviser par deux notre consommation d'énergie d'ici à 2050. Ça, c'est le pari de Négawatt, Yves Marignac.
Alors c'est en tout cas la conclusion des scénarios Négawatt. Le premier à apporter cette conclusion-là, c'était celui que Négawatt, l'association, a publié en 2011, mais on l'a conforté avec le scénario qu'on a publié en 2017, qui est par ailleurs le premier scénario à avoir proposé une trajectoire de neutralité carbone. Tout gaz à effet de serre, parce que la question n'est pas que le CO2 énergie pour répondre à Henri Prévost, mais l'ensemble des gaz à effet de serre. Et justement, il y a bien une cohérence systémique dans la trajectoire et dans l'approche. Maîtrise de la consommation d'énergie pour arriver effectivement à environ 50% de réduction par rapport à aujourd'hui. Et recours accru et à terme essentiellement aux énergies renouvelables, c'est la condition aujourd'hui pour atteindre cette fameuse neutralité carbone et un système énergétique beaucoup plus soutenable que celui dans lequel on évolue actuellement.
Mais ce qui est très compliqué et qui explique peut-être aussi cette diversité des chiffres à laquelle on fait face, c'est que tout dépend si l'on prend comme scénario de départ une augmentation de la consommation de l'énergie dans les décennies qui arrivent, David Marshall, au contraire une stabilisation ou une diminution selon les usages notamment.
Je crois qu'il y a beaucoup de scénarios qui sont bien d'accord sur le fait qu'on a besoin de réduire notre consommation, toute énergie confondue, et notamment la consommation de pétrole, de gaz, c'est inscrit dans la loi, la division par deux de la consommation d'énergie pour 2050. La question, c'est quelle va être la part de l'électricité dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur l'électricité, c'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'électricité, c'est que 25% de la consommation d'énergie en France. Donc on pourrait très bien aussi se dire, occupons-nous des autres énergies. Il se trouve que l'électricité, c'est aussi une énergie décarbonée aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'elle est assez versatile, on va pouvoir se déplacer avec, on va pouvoir chauffer davantage avec. Mmh. Il y a les usages du numérique. Donc il y a beaucoup de nouveaux usages avec l'électricité.
Toute la question étant, est-ce que cette hausse liée aux usages sera compensée par la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique?
Exactement. Donc nous, ce qu'on constate, et c'est également ce que constate RTE, le gestionnaire du réseau de transport, c'est qu'en prenant en compte les effets de l'efficacité énergétique, on arrive à des scénarios qui sont plutôt à la baisse. Même si on prend en compte beaucoup de nouveaux usages de l'électricité, notamment donc un recours accru aux pompes à chaleur pour chauffer les maisons, des véhicules électriques, etc., etc.
Alors justement, comment est-ce qu'on améliore l'efficacité énergétique, Yves Marignac? Est-ce que le premier chantier, c'est la rénovation thermique du parc immobilier qui existe déjà à l'heure actuelle?
Alors oui, effectivement, l'atteinte de ces objectifs du point de vue de la soutenabilité et donc du point de vue de la réduction de la consommation d'énergie, ça passe par des efforts d'efficacité et de sobriété. La sobriété d'abord, c'est-à-dire une meilleure maîtrise des usages que l'on fait de l'énergie, une réduction des gaspillages pour des consommations qui ne rendent en fait aucun réel service. Mais ensuite, pour les services énergétiques dont on a effectivement besoin, l'efficacité, l'amélioration des performances, ça vaut dans tous les secteurs, mais il y a aujourd'hui effectivement des paquets assez incontournables, et le premier d'entre eux, c'est une rénovation thermique de l'ensemble de nos bâtiments, qui doit être une rénovation en plus qu'on ne fait pas qu'à moitié, c'est-à-dire il faut vraiment aller chercher une rénovation performante de ces bâtiments. C'est un chantier qui est ouvert depuis plus de 10 ans maintenant.
Et alors justement, il faudrait selon l'ADEME, je crois, 500 000 rénovations performantes par an avant 2035, puis 750 000 chaque année entre 2035 et 2050. C'est un chantier qui paraît absolument considérable, David Marshall.
Oui, c'est un chantier considérable, mais aujourd'hui, le bâtiment, c'est 40% des consommations d'énergie en France. Donc, on a du mal à passer à côté de ce chantier-là. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas si loin. On considère qu'aujourd'hui, on a à peu près à 300 000 rénovations ambitieuses par an. Donc, on n'est pas quand même si loin. Mais effectivement, il faut accélérer ces rénovations et surtout améliorer leur ambition pour arriver à un parc qui serait effectivement à l'équivalent d'un d'une maison BBC, on va dire, à l'horizon 2050.
Il y a une autre possibilité, c'est celle d'avoir plus de logements collectifs et moins de maisons individuelles dans les constructions de bâtiments neufs à venir, Yves Marignac.
Oui, alors ça fait partie des efforts plutôt de sobriété, c'est-à-dire une maîtrise globalement des surfaces habitées. Le scénario négawatt table par exemple sur une stabilisation aujourd'hui de la moyenne de mètres carrés par habitant dans les logements, ce qui passe probablement par un rééquilibrage entre la maison individuelle et le petit logement collectif, ce qui a par ailleurs des impacts très positifs du point de vue de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, donc des besoins de mobilité, et puis potentiellement des impacts positifs également du point de vue sociétal, du point de vue du lien social. Mais effectivement, c'est tous ces enjeux qu'il faut traiter en même temps, d'où la difficulté de la mise en œuvre de scénarios tels que l'ADEME ou Négawatt les envisagent.
Henri Prévost, je voudrais entendre votre avis sur cette discussion autour de la nécessité d'aller vers plus de sobriété énergétique, plus d'efficacité énergétique. Qu'est-ce que vous pensez de ces chantiers en cours?
Bon, je suis content que les deux personnes qui viennent de parler montrent la difficulté pour atteindre cet objectif. Donc, je m'interroge sur la pertinence de l'objectif. Je crois qu'elle est là, la question. On parlait d'efficacité énergétique. Mais l'efficacité par rapport à quel but? Le but, c'est l'émission de CO2. De réduire les émissions de CO2. Ce n'est pas la diminution de consommation d'énergie. Il faut bien se dire ça. Si on est capable de se chauffer à l'électricité, ou au biogaz, ou au biofuel, ce qui n'émet pas de gaz à effet de serre, en respectant cet objectif donc de baisse des émissions, pourquoi dépenser beaucoup pour l'isolation thermique? Je ne parle pas d'efficacité thermique, de l'isolation thermique. Il se trouve que j'ai fait une étude, que je crois assez soigneuse, qui sera bientôt publiée, dont les résultats seront bientôt publiés dans la revue de l'énergie, pour savoir combien coûte cet objectif de mettre tous les logements existants au standard bâtiment basse consommation. Combien ça coûterait par rapport à un autre scénario où on recherche l'efficacité, effectivement, en termes de CO2 évité rapporté à la dépense. Voilà. Je ne parle pas d'économie d'énergie, je parle d'émissions de CO2 rapportées à la dépense.
Et donc, pour vous, ces investissements ne sont pas rentables?
Mais, que veut dire rentable? Ils ne vont pas dans le sens de l'objectif qui est de diminuer les émissions de CO2. Ou s'ils y vont, c'est au prix de dépenses en plus qui sont considérables, que je cite à peu près de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros par an.
Mais alors, ce qui est effectivement très compliqué, c'est que on entre rapidement dans une bataille de chiffres sur laquelle il est
d'objectifs.
Mais alors justement, est-ce que l'objectif n'est pas clair, en tout cas pour vous, Yves Marignac, qui est un objectif de sortie du nucléaire en l'occurrence?
Non, la question du nucléaire ou des renouvelables est une question secondaire par rapport aux enjeux de transformation du système énergétique vis-à-vis de la soutenabilité. La soutenabilité, c'est d'abord la question climatique et la neutralité carbone, encore une fois, ce qui veut dire tous les gaz à effet de serre et pas seulement le CO2 de l'énergie. Les seuls scénarios qui sont sur la table aujourd'hui qui montrent l'atteinte de cette neutralité carbone autour de 2050 sont des scénarios qui passent par une réduction de 40 ou 50% de la consommation d'énergie. Cette réduction et la rénovation thermique en est un bon exemple. Elle est rentable dans le long terme, c'est-à-dire que à condition d'intégrer les coûts ou les économies de consommation d'énergie sur 20 ou 30 ans, la rénovation performante, et j'insiste sur ce point, rembourse effectivement l'investissement. Et puis le dernier point, c'est qu'il n'y a pas que le CO2. Nos consommations d'énergie, elles consomment des matières premières, des ressources, et donc il y a intérêt global.
Il y a aussi la question de l'épuisement des ressources, voilà. Henri Prévost, et là-dessus, il y a un consensus autour de cette question.
Je suis content d'entendre ce qui vient d'être dit, parce que c'est facile de montrer que les choses se passent différemment. En tout cas, c'est ce à quoi je conclue. Et j'ai donc travaillé sur un scénario BBC, y compris, vous avez bien raison, tous les gaz à effet de serre, non seulement le CO2, avec une consommation d'énergie pour le bâtiment, pour le chauffage des bâtiments, qui correspond à ce que je disais, la recherche d'éviter les émissions de CO2 au moindre coût, et qui arrive à consommer 80 TWh d'électricité de plus que ce qui est prévu dans les scénarios BBC, stratégie nationale.
Alors il nous faudrait des tableaux sous les yeux, sinon ce sera un petit peu compliqué. Je voudrais simplement entendre David Marshall sur cette question, et notamment le fait que la plupart des économies d'énergie qui ont été faites en France depuis 1975, ce sont des économies d'énergie dues à des réglementations. Et je voudrais notamment vous poser la question de ce qui a permis de diminuer ces dernières décennies la consommation d'électricité.
Sur la consommation d'électricité, je pense que ce qui a eu, effectivement, les réglementations thermiques du bâtiment sont de fortes réglementations qui permettent de réduire la consommation des bâtiments neufs. La question, c'est qu'on ne traite pas que des bâtiments neufs. Au contraire, hein, si on ne traite que les bâtiments neufs, je crois qu'il y a 3% de rénovation, 3% de bâtiments neufs par an. Donc, on est loin d'avoir rénové l'ensemble du parc, in fine. Il y a également des réglementations sur les équipements qui ont été mises en place. Et effectivement, on voit les étiquettes sur les frigos, etc. +++. Ça, c'est alors à la fois l'Europe qui pousse beaucoup, et je pense que c'est quelque chose dont on peut se féliciter parce que ça a une forte efficacité. Et ça pousse les fabricants à effectivement mettre sur le marché des équipements de plus en plus vertueux. Mmh. La question qui est plus difficile, c'est celle de la rénovation du parc thermique existant, où là, la réglementation peut faire des choses. Il existe des choses en termes de réglementation sur la rénovation, mais les contrôles sont plus difficiles. C'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus.
Mmh. Et alors, il y a aussi des économies d'énergie, Yves Marignac, que l'on peut faire dans l'industrie. Lesquelles, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut compter sur une meilleure efficacité énergétique dans l'industrie?
Alors oui, on peut compter sur une plus grande efficacité dans l'industrie. On peut compter aussi sur des politiques de sobriété vis-à-vis de production industrielle qui aujourd'hui rendent in fine assez peu de services. On peut améliorer les process, on peut améliorer par exemple l'efficacité de machines-outils électriques utilisées dans la fabrication. On peut, il y a vraiment tout un champ dans l'industrie. Toutefois, il faut quand même reconnaître que l'industrie, vous parliez de 1975 et des efforts qu'on a commencé à faire en gros à l'époque des chocs pétroliers, l'industrie est aujourd'hui le secteur qui historiquement a le plus maintenu les efforts dans la durée d'efficacité énergétique, et donc les champs prioritaires du point de vue des réductions d'énergie à aller impérativement chercher sont quand même le bâtiment, on vient d'en parler, et la mobilité, où là, c'est peut-être le secteur où aujourd'hui notre trajectoire dérive le plus par rapport à ce qui serait nécessaire.
Alors justement, dans le secteur des transports, la consommation d'électricité est amenée à augmenter avec le développement de la voiture électrique. Est-ce qu'il y a des gains possibles en termes d'efficacité énergétique dans le transport, David Marshall?
Quand on raisonne en énergie, bien entendu, puisque un moteur thermique a un rendement très faible, en fait, alors qu'un moteur électrique a un bien meilleur rendement. Donc oui, en termes d'efficacité énergétique, le véhicule électrique est quelque chose qui a un rendement bien meilleur. Après, il faut raisonner en termes d'analyse de cycle de vie, prendre en compte son impact environnemental, en prenant aussi en compte l'impact de la fabrication de la batterie. Mais le véhicule électrique, néanmoins, s'il roule, s'il fait plus de 10 000 km par an, c'est un choix pertinent d'un point de vue environnemental.
Mmh. On entend des chiffres différents, parfois c'est 50 000 km par an, mais là encore, les calculs sont extrêmement compliqués. Et là-dessus, Yves Marignac, aussi sur cette question de la sobriété énergétique, par quoi est-ce qu'elle passe selon vous? Est-ce que c'est notamment par le fait de rendre les produits plus durables, de lutter contre l'obsolescence programmée, comme le fait le gouvernement?
Alors c'est et je salue d'ailleurs le fait que le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale hier ait appelé au développement d'une économie de la sobriété où cet effort de mieux consommation, je dirais, va plus vite que la croissance économique, c'est grosso modo ces termes d'hier. Oui, ça passe. Enfin, c'est encore une fois des actions assez différenciées selon les secteurs. Dans le cadre de la mobilité, c'est un meilleur aménagement du territoire. D'abord, pour avoir besoin de parcourir moins de distance pour accéder aux mêmes commodités, aux mêmes services. Vis-à-vis de la production industrielle, c'est effectivement aller vers une économie de la réparabilité, de la fin de l'obsolescence programmée.
Ce qui devrait permettre...
aller vers moins d'emballage aussi, peut-être revenir à la consigne par exemple. Il y a plein d'idées sur la table aujourd'hui qui permettraient effectivement de réduire considérablement l'empreinte énergétique et l'empreinte matériaux de nos consommations quotidiennes par rapport à ce qu'elles sont.
Plein d'actions possibles qui permettraient de créer des emplois, mais alors est-ce que cela compenserait des emplois qui seraient perdus dans le nucléaire, puisque dans votre scénario, à partir de 2035, la France sortirait du nucléaire?
Alors les études et je crois que les analyses de l'ADEME sur ces scénarios, celles de l'association Negawatt sur son propre scénario et d'autres sont toutes très convergentes sur ce point. La transition énergétique ou la transition écologique, parce qu'il faut peut-être y inclure aussi la transformation de notre agriculture, c'est globalement un solde positif en centaines de milliers d'emplois pour l'économie française et c'est aussi une réinjection dans les territoires, dans l'économie locale, d'argent qui est aujourd'hui dépensé pour de l'importation, notamment d'énergie fossile. Ceci dit, c'est de la création nette d'emplois, mais au profit de certains secteurs et aux dépens d'autres. Et donc, un des enjeux, évidemment, c'est d'accompagner les secteurs appelés à un déclin dans les territoires concernés et pour les personnels concernés.
David Marshall,
je crois que c'est important d'avoir cette vision globale et on parlait tout à l'heure du coût de la rénovation énergétique. Alors effectivement, la rénovation énergétique, c'est un coût, comme tout investissement, c'est un coût. Est-ce que tous les coûts sont malsains ou malvenus? Ces études macroéconomiques qui sont menées pour évaluer justement les secteurs en baisse et les secteurs en hausse, elles visent à prendre en compte tous ces effets, c'est-à-dire le fait qu'un coût, c'est aussi un investissement, c'est aussi de la valeur ajoutée, de l'activité économique. Et effectivement, il y a la rénovation énergétique, ça sera fortement créateur d'emplois locaux non délocalisables. Et oui, on conclut nous aussi à la création dans des scénarios, alors pas que électriques, de transition énergétique de l'économie française à la création de 900 000 emplois nets en 2050.
Et cette rénovation énergétique, c'est aussi une solution face à la précarité énergétique qu'on connaît finalement assez mal, Yves Marignac?
Alors oui, c'est vraiment des politiques qui peuvent être gagnant-gagnant, puisque le traitement en priorité dans un grand programme de rénovation thermique des bâtiments, de ce qu'on appelle les passoires énergétiques, c'est vraiment des gains immédiats pour des personnes qui sont en précarité dans ces logements et du point de vue des effets notamment de pointes électriques, puisque c'est un des autres problèmes de notre système, pointes électriques générées notamment par les besoins de chauffage de ces logements peu performants chauffés à l'électrique.
Et alors il va falloir en venir à ces différents scénarios de transition énergétique sur lesquels de nombreux désaccords devraient survenir, on va en parler dans un instant.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Baby.
Vous écoutez The Weight of the World par le groupe britannique The Editors sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, Yves Marignac, David Marchal et Henri Prévost sont toujours avec nous pour parler de l'avenir du mix électrique français. Alors venons-en maintenant aux différents scénarios de transition énergétique. David Marchal, vous avez coordonné l'étude Trajectoire d'évolution du mix électrique 2020-2060, publiée par l'ADEME en décembre 2018. Et la conclusion de ce rapport, c'est que l'énergie produite par les renouvelables sera dans les prochaines décennies l'énergie la plus rentable.
L'étude, elle visait à regarder l'évolution du système électrique dans son ensemble. Je crois que c'est important de l'avoir en tête, parce que on entend souvent que le prix des renouvelables baisse. On est de moins en moins cher, il y a un appel d'offres au Maroc, un appel d'offres ailleurs, le photovoltaïque est de moins en moins cher, l'éolien aussi. La question, c'est comment on va intégrer ces renouvelables dans le système électrique, puisque photovoltaïque comme éolien, qui sont les deux grandes énergies renouvelables qu'on pourra développer en France, mais si on a une base hydraulique importante,
ces deux énergies majoritaire à l'heure actuelle sur la production d'énergie renouvelable.
Complètement. Oui. Ces deux énergies dépendent de la météo. Elles sont variables, intermittentes, selon le vocabulaire qu'on utilise. Et donc la question, c'est comment on va équilibrer en temps réel l'offre et la demande d'électricité.
Alors ce qu'on peut entendre, c'est que l'investissement massif dans l'éolien et dans le photovoltaïque est plus élevé que l'investissement dans le grand carénage, c'est-à-dire le prolongement de la durée de vie des réacteurs existants. C'est ce qu'on peut entendre, Henri Prévost.
Oui, tout de même, auparavant, je voudrais répondre, puisque je n'ai pas eu l'opportunité tout à l'heure. Quand on a parlé des scénarios, on a dit tous les scénarios disent qu'il faut diviser la consommation par deux, etc. Je voudrais signaler un scénario qui a une sur la consommation d'énergie, qui a une vision globale, et qui est le scénario de Negatep de l'association Sauvons le Climat, qui donne un point de vue tout à fait différent, et qui mérite tout à fait d'être connu. Il a été très sérieusement étudié. Voilà. En ce qui concerne donc et comme le disait très justement David Marchal, l'électricité doit être vue dans l'ensemble de la question de l'énergie. Et même si, hypothèse, je suis pas tout à fait d'accord, mais même si le scénario de production d'énergie, d'électricité n'était pas plus coûteux sans nucléaire qu'avec nucléaire, il faut considérer aussi les dépenses qui sont nécessaires sur la rénovation thermique, sur les véhicules, etc., pour pouvoir diviser par deux la consommation d'énergie, qui est la condition nécessaire pour qu'un scénario d'électricité sans nucléaire soit possible. Donc il faut vraiment regarder le total. Alors, maintenant, regardons le scénario d'électricité avec les hypothèses qu'a faites l'ADEME sur la consommation d'électricité. Il est exact que l'on peut, je le disais tout à l'heure, produire cette électricité sans nucléaire et avec très peu d'énergie fossile. Ça, on va pas le contredire. Il est exact aussi que si on fait des hypothèses extrêmement optimistes sur l'évolution des éoliennes, du coût de l'éolienne, notamment en mer, ou du coût du photovoltaïque, on arrive à montrer et des hypothèses moyenne ou pas tellement optimiste sur le futur nucléaire, on peut arriver à montrer que effectivement c'est pas plus cher, à condition d'avoir des quantités de biomasse considérables.
On parle d'un effet ciseau, c'est-à-dire ce moment où les courbes de rentabilité du nucléaire et des renouvelables vont se croiser.
À condition que l'on dispose de beaucoup de biomasse, on pourrait y revenir, et à condition que la consommation d'électricité n'augmente pas ou baisse. Les scénarios, David Marchal pour le confirmer, mais ces scénarios prévoient que la consommation, elle augmente ou qu'elle baisse. Ils ne prévoient pas qu'elle augmente. Alors que, on l'a vu, pour les véhicules, il faudra une augmentation de 25% au moins par rapport à la consommation actuelle. Pour le logement, je le disais, une augmentation pareille de l'ordre de 25% par rapport à la consommation actuelle. Il y aura des économies par ailleurs, mais tout de même, ça fait une forte augmentation.
Il n'y a pas de scénario, on va demander à David Marchal, il n'y a pas de scénario qui prend en compte l'augmentation de la consommation d'électricité.
Si justement, en fait, en 2015, on avait uniquement pris des scénarios avec une baisse de la consommation d'électricité. Ça nous a été reproché. Mais dans l'étude de 2018, on a appris de nos erreurs. Effectivement, on a inclus un scénario avec une augmentation de la consommation d'électricité. Est-il réaliste? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un scénario qui est basé sur une électrification massive du parc. parcs automobiles, 100% de véhicules particuliers. Donc, c'est pas forcément réaliste, mais en tout cas, ça permet de répondre à cette question. Si le volume d'électricité devait augmenter, est-ce que ce serait possible? Et effectivement, ça reste possible de couvrir cette demande avec les énergies renouvelables.
Henri Prévost.
Bon, donc... Je le disais tout à l'heure, pour pouvoir discuter, il faut disposer d'outils à peu près comparables aux outils qui sont utilisés par l'ADEME. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que je crois que à la fois Negawatt, l'ADEME et moi-même, on s'est appuyé sur les mêmes chroniques de production et de consommation de référence de l'année 2013. Hein, RTE nous a donné ça à tous les trois. Bon, donc on a des résultats qui sont comparables. Alors après, l'ADEME a un peu évolué, mais c'est toujours sur le même état d'esprit. Enfin voilà, les mêmes méthodes. Donc, je redis. Avec une légère augmentation de consommation d'électricité, on y arrive. Je vais expliquer tout à l'heure, quand j'aurai le temps, pourquoi une augmentation supplémentaire, hein, au-delà de ce qui a été imaginé par l'ADEME, rend la chose impossible. Hein,
mais je veux dire. On pourra en reparler, mais d'abord, on va entendre Emmanuel Macron.
Dans notre production aujourd'hui d'électricité et d'énergie en France, quel est le problème? Le thermique et le charbon. Le nucléaire n'est pas mauvais pour les émissions de CO2, c'est même la manière aujourd'hui avec les renouvelables, la plus décarbonée, comme on dit, de faire de l'électricité. Mais ça fait peur. Mais c'est autre chose. Si je ferme demain une centrale nucléaire en plus, c'est pas vrai que je peux la remplacer par du renouvelable. Pourquoi? Parce qu'une centrale nucléaire, elle vous fournit de l'électricité de manière continue toute l'année. Le renouvelable, c'est une énergie intermittente.
Donc il y a attention, il faudra du temps.
Qu'ont fait les Allemands quand ils ont d'un seul coup fermé tout le nucléaire? Ils ont développé beaucoup plus de renouvelables que nous. On a du retard. Mais ils ont massivement rouvert du thermique et du charbon. Et ils ont dégradé leur bilan CO2. Ça n'a pas été bon pour la planète. Donc je ne ferai pas ça. Sur le nucléaire, qu'est-ce que je ferai? Nous allons attendre la décision que va prendre l'autorité de sûreté nucléaire. Où elle va dire, réacteur par réacteur, ce qui est sûr, ce qui l'est moins, ce qu'on peut prolonger au-delà de 40 ans, ce qu'on doit arrêter.
Emmanuel Macron au micro de Laurent Delahousse en décembre 2017. Pour atteindre un mix électrique 100% renouvelable, il va falloir trouver des solutions à ce problème de l'intermittence des énergies, Yves Marignac.
Alors, deux mots d'abord sur cette déclaration. D'abord, c'est assez triste d'entendre un président de la République relayer des poncifs faux concernant le redémarrage massif de production thermique en Allemagne. Mais au-delà de ce point, ce qui est frappant, c'est une déclaration qui est typique du manque de vision systémique du sujet que peuvent avoir des gens qui ne sont pas spécialistes de l'énergie. On ne peut pas en tenir rigueur, évidemment, sur ce point. Mais cette déclaration qui, sur le nucléaire, les renouvelables et le fait qu'on ne peut pas remplacer, elle n'a de sens que si on la replace dans une vision de l'évolution de l'ensemble du système. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de construire des scénarios et qu'on a besoin, pour le faire, de modèles assez complexes. Le modèle qu'utilise Negawatt est très peu complexe par rapport à la capacité de modélisation qu'a l'ADEME, mais déjà beaucoup plus complexe, je pense, que celui qu'utilise Henri Prévost. Et il faut toujours avoir conscience des limites de ce qu'on dit de ce point de vue-là.
Mais juste il soulève un vrai problème.
Sur la réponse à la question, évidemment, les renouvelables, c'est décentralisé et c'est variable pour la majeure partie d'entre elles dans ce qu'on imagine à l'horizon 2050, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque. Et donc, la réponse, c'est une vision différente du système, avec deux outils essentiellement qui sont pas ou peu développés dans le système aujourd'hui, mais qui peuvent tout à fait l'être à l'horizon 2035, où ils deviendraient cruciaux. Des outils de flexibilité de la consommation, d'un côté, pour l'ajuster autant que possible sur ce qui peut l'être au moment où les renouvelables produisent.
Et donc, par exemple, quand la production hydroéléctrique atteint son apogée en France entre avril et juillet, parce qu'il y a la fonte des neiges.
Un certain nombre de consommations, notamment pour qu'elle coïncide avec les productions du photovoltaïque dans la journée. Un peu à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui en pilotant les consommations des ballons d'eau chaude au moment de creux d'autres consommations pour les alimenter par des réacteurs et on sait faire ce genre de choses massivement.
Il y a une expérimentation très importante, c'est le power to gas.
Le deuxième outil, voilà, c'est ce qu'on appelle le power to gas. Alors le terme est un peu barbare, mais l'idée, c'est d'utiliser des excédents d'électricité renouvelable qui viennent d'ailleurs à coût marginal très faible ou nul pour synthétiser de l'hydrogène et l'utiliser tel quel ou la recombiner avec du CO2 qui peut venir du biogaz, et on se rejoint avec Henri Prévost sur l'importance de la biomasse, et qui peut du coup donner du méthane de synthèse qu'on injecte et qu'on stocke sur le réseau. Ces outils-là, ils n'existent pas aujourd'hui, mais ils sont vraiment tout à fait envisageables, disponibles, et à un coût sur l'ensemble du système pas plus élevé, au contraire, que la poursuite du système actuel aux horizons dont on a besoin.
Il y a de plus en plus de technologies qui permettent de répondre à ce problème de l'intermittence, Henri Prévost.
Je suis content de dire que sur un point, moi, avec Negawatt, on est parfaitement d'accord. Hein. C'est sur le rôle de la biomasse. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai fait connaissance d'Yves Marignac, il y a déjà une vingtaine d'années, je crois. Mmh. Quand j'ai travaillé sur les réseaux de chaleur, et j'ai montré tout comme ça, quoi, c'est très bon d'alimenter les réseaux de chaleur avec de la biomasse. Il vaut mieux l'utiliser la biomasse à ça plutôt que de faire de l'électricité, d'ailleurs.
Mais possible. Alors, sur ces réponses à l'intermittence, Henri Prévost.
Alors, sur l'intermittence, je dirais que mon modèle, cher Yves Marignac, permet de reprendre en compte tout à fait l'intermittence, tout à fait les déplacements de consommation. Il faudra qu'on y travaille ensemble. Hein. Bon. Et également, comme vous l'avez cité, la production d'hydrogène pour produire du méthane qui sert ensuite à faire de l'électricité. C'est la seule façon que l'on a actuellement de pouvoir utiliser le soleil de l'été pour faire de l'électricité l'hiver. Hein. C'est la seule méthode. L'embêtant, c'est que le rendement ne peut pas être supérieur à 30%. Donc, il faut beaucoup d'énergie au départ. Et ceux qui sont tellement soucieux des rendements énergétiques, ils devraient voir ça quand même.
Hein. Mais ce sont des progrès qui jouent en faveur de ces énergies renouvelables.
Non, techniquement, on peut pas aller au-delà de 35, 37%. C'est physique. Hein, quand on fait tout ce processus-là de produire de l'hydrogène, puis du méthane, puis de l'électricité, on peut pas dépasser 35% de rendement. Bon.
Donc, on va entendre David Marshall sur ce point, peut-être.
Mais en fait, moi, je crois que ce qui est important de dire, c'est que la question du stockage intersaisonnier, c'est de ça dont on parle, qui a un rendement qui est effectivement médiocre, elle n'est pas nécessaire tant qu'on n'est pas au-delà de 95% d'énergie renouvelable. Nous, c'est ce qu'on montre dans nos scénarios. Et je crois que sur cette question de l'intermittence, c'est une question technique. Enfin, pour l'instant, on l'aborde d'un point de vue technique. Il y a de plus en plus consensus sur le fait que ça sera possible d'équilibrer un mix avec une part majoritaire d'électricité renouvelable. RTE, gestionnaire de réseau de transport, encore une fois, dans un de ses scénarios, a un mix électrique 70% renouvelable en 2035. Voilà. Donc cette question de l'équilibre offre-demande, il ne faut pas la voir unité par unité. On n'est pas en train de comparer une éolienne avec une centrale à gaz. Il faut prendre en compte le foisonnement, c'est-à-dire on a plusieurs régimes de vent en France. On a du foisonnement également entre énergies renouvelables qui se combinent plutôt bien. Et tout ça, enfin nous en tout cas, on montre que grâce à ça, les besoins de stockage ils sont tout à fait limités.
Fin 2017, les Français ont déjà engagé 120 milliards d'euros pour construire des éoliennes et des panneaux solaires, au titre de tous les contrats qui ont été passés avec des producteurs à fin 2017. Ce à quoi il faut rajouter les 25 milliards qui ont été promis sur l'éolien offshore, ça fait 145 milliards. Oui. Bon. Avec ces 145 milliards, vous n'allez pas éviter de CO2, vous allez produire quelques pourcents de l'électricité française, 5% en ordre de grandeur. Avec ces mêmes 145 milliards, vous auriez pu offrir une pompe à chaleur à chaque Français chauffé au gaz et au fioul, à chaque Français, à 15 millions de foyers. D'accord ? Vous auriez évité 10 milliards d'importations par an, pétrole et gaz. Vous auriez évité 20% du CO2 national et vous auriez créé 200 000 emplois dans l'économie nationale. Bon, là, on est en train de s'occuper d'un faux problème qui est un truc totalement secondaire en investissant nos milliards et notre temps disponible dans quelque chose qui est déjà traité depuis 30 ans.
On entendait le consultant en énergie Jean-Marc Jancovici au micro de Bertille Bayard pour Le Figaro. C'était le 5 octobre 2018. Que vous inspirent ces propos, Henri Prévost?
Bon, je suis assez d'accord.
On n'aurait pas dû investir autant dans le renouvelable.
Je suis d'accord, on ne voit pas. Mais je vais même élargir vraiment beaucoup la question et lui donner de la profondeur. Parce que j'ai calculé combien coûte l'arrêt de Fessenheim. Hein. D'abord, l'arrêt de Fessenheim, ça entraînera 9 millions de tonnes de CO2 de plus que si on ne l'arrête pas. Ça ne sera peut-être pas en France, mais ça sera en Allemagne. Parce que les Allemands, ils achètent beaucoup d'électricité nucléaire.
Tout dépend de l'avancée des énergies renouvelables.
Non, de toute façon, si on le, toute chose égale par ailleurs, comme on dit en mathématiques, en physique, si vous arrêtez Fessenheim, vous allez cracher 9 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère de plus que si vous l'arrêtez pas. Et on peut pas dire le contraire. C'est évident. Et ça se calcule, ça se vérifie sur le modèle, sur n'importe quel modèle mathématique. Bon. Donc, et si vous arrêtez les centrales pour, selon la, les projets de la programme PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Donc 50% de nucléaire en 2035 plutôt que 2025, comme ce qui avait été prévu à l'origine.
7 milliards d'euros de plus que si vous les arrêtez au bout de 50 ou 60 ans. Et ça, je le démontre, et chacun peut le vérifier. Encore une fois, tout est publié, tout est bon. Donc, personne ne le conteste. Je l'ai dit dans des réunions à RTE, quand on a fait allusion tout à l'heure, personne ne le conteste. Et 7 milliards d'euros. Ces 7 milliards d'euros, ils peuvent être utilisés à autre chose, comme le disait justement Jean-Paul.
Mais alors, ce qui ressort de l'étude de l'ADEME, c'est peut-être un juste milieu entre vos positions, Yves Marignac, et vos positions, Henri Prévost. C'est l'idée qu'il faut peut-être sortir du nucléaire pour des raisons économiques, David Marshall, mais qu'il faut que cette transition se fasse peu à peu.
Pour revenir sur les dires de Jean-Marc Jancovici, c'est exact que la politique de soutien aux énergies renouvelables, elle a coûté de l'argent. Les chiffres qu'il donne sont des coûts engagés, en fait. Hein, c'est derrière nous. Et comme l'Allemagne, la France et l'Europe, de façon générale, a donné le signal, elle a voulu enclencher le marché de l'électricité renouvelable, qui est aujourd'hui un marché mondial. Et aujourd'hui, les électricités renouvelables sont les sources les plus installées dans le monde. On installe plus de PV et d'éolien qu'on installe de centrales à gaz, etc., etc. Donc ça, c'est aujourd'hui un marché mondial, et je crois qu'il faut relativiser ces chiffres au vu des coûts futurs, puisque effectivement, dans les coûts de la PPE, la programmation pluriannuelle d'énergie, je crois qu'on va doubler la quantité d'électricité renouvelable produite pour seulement 30 milliards de plus, donc à comparer aux 120 ou 140 milliards qu'évoquait Jean-Marc Jancovici, qui sont des coûts partis, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui, ces énergies renouvelables ont coûté cher. Aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont sur la voie de la maturité. Et donc, la question qui se pose par rapport au nucléaire, je crois qu'il faut bien distinguer deux questions. Il y a la question de la prolongation du parc actuel, qui produit plus de 70% de notre électricité. Est-ce qu'on va prolonger? Est-ce qu'on va prolonger 10 ans? Est-ce qu'on va prolonger 20 ans? Cette prolongation a un coût.
Avec les coûts de carénage que ça suppose.
Et effectivement, si on prend en compte, si on raisonne d'un point de vue strictement économique et climatique, la prolongation des centrales, est pertinente économiquement, au moins en partie. Je pense qu'après, Yves Marignac pourra compléter sur le volet risque. Nous, ce n'est pas un sujet qu'on regarde et qu'on maîtrise, mais d'un point de vue strictement économique, effectivement, en prolonger une partie peut faire sens. La question suivante, c'est celle du nouveau nucléaire, c'est-à-dire que nos centrales existantes, elles ont de toute façon une durée de vie limitée, et la transition... Et il faut l'envisager dans la durée.
Elles ont été, pour beaucoup d'entre elles, construites dans les années 80. Donc, leur durée de vie était censée durer 40 ans. Donc, l'idée, là, c'est de les faire durer éventuellement 10 ou 20 ans de plus. C'est cela, David Marshall.
C'est ce qui est envisagé, effectivement, à l'âge de 40 ans. Mais là encore, Yves Marignac connaît beaucoup plus ces sujets que moi. Il y a ce qu'on appelle les visites décennales, chaque 10 ans. Et au-delà de 40 et 50 ans, on a un avis, au-delà de 40 ans, il y a un avis de l'autorité de sûreté nucléaire qui était signalé tout à l'heure par Emmanuel Macron, qui doit effectivement lister les travaux à faire pour prolonger ces centrales.
C'est sur la question de la sécurité que la sortie du nucléaire se pose davantage pour vous, Yves Marignac.
Elle se pose d'une manière beaucoup plus générale que ça, même si évidemment la sûreté et la sécurité doit être prise en compte. Moi, d'abord un mot sur les propos de Jean-Marc Jancovici, parce que c'est un expert avec qui, à Négawatt, on partage beaucoup l'analyse de la nécessité de réduire la consommation d'énergie. Et puis, on a une divergence de fond, effectivement, sur la priorité aux renouvelables et au nucléaire. Et à mon sens, Jean-Marc Jancovici, c'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, 10 ans, explique que les renouvelables ne seront jamais capables de fournir beaucoup d'énergie, ne seront jamais compétitives, et qui est confronté à une réalité qui contredit de plus en plus ses dires, et qui, à mon sens, et je tiens à le dire ici, tient des raisonnements de plus en plus biaisés, tirés par les cheveux et orientés pour essayer de soutenir à tout prix une thèse qui ne tient plus. Et je pense qu'on en a eu un exemple à l'instant.
Aujourd'hui, on est à 19% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité environ.
Oui, mais il y a surtout des pays qui sont beaucoup plus avancés. Mais les chiffres sont là, et les renouvelables aujourd'hui dans le monde, c'est 15 fois plus d'investissements chaque année que le nouveau nucléaire pour des bonnes raisons. Dans ce qu'a dit Henri Prévost, j'ai noté l'idée de toutes choses égales par ailleurs. J'aime bien ce concept parce que justement, on parle aujourd'hui du système électrique, du mix électrique à l'horizon 2050. Et le mix à l'horizon 2050, il peut pas être toutes choses égales par ailleurs. Il a besoin de se transformer. L'essentiel du système électrique de 2050 reste à construire. Et donc la question qui est devant nous, effectivement, c'est pas de savoir si le nucléaire hier était plus compétitif que les renouvelables. Il l'était. C'est de savoir si demain... Il faut investir dans le grand carénage. Henri Prévost n'a pas répondu à cette question tout à l'heure. Le grand carénage, c'est beaucoup d'argent à investir pour prolonger effectivement de 10 ou 20 ans la durée de vie des centrales. Et je suis par ailleurs membre des groupes permanents d'experts de l'autorité de sûreté nucléaire. Je peux vous dire qu'il y a des discussions assez approfondies sur les conditions dans lesquelles c'est possible d'assurer cette sûreté. Le grand carénage pour prolonger. Et les nouveaux réacteurs qui seront beaucoup plus chers que les réacteurs actuels, on en a malheureusement la preuve avec Flamanville.
Tout cela a un coût effectivement voilà, important, on va entendre...
Le coût d'un investissement dès aujourd'hui dans un système électrique renouvelable et d'un lissage de la fermeture des réacteurs pour éviter des effets falaises liés, comme vous l'avez dit, au fait qu'ils ont tous été construits à peu près au même moment, c'est ça aujourd'hui le meilleur moyen de minimiser, d'optimiser le coût à long terme de transformation.
À noter que selon l'étude de l'ADEME, le nucléaire de nouvelle génération n'est pas jugé compétitif. Je voudrais vous entendre là-dessus, Henri Prévost.
On va aller très vite pour répondre, parce que le temps passe. Sur les coûts, cher ami, tout est peut-être paramétré sur le logiciel qui, encore une fois, est publié. Vous pouvez mettre les dépenses que vous voulez. Et dans ce que je publie, il y a un coût important pour le grand carénage, l'ordre de 80 à 100 milliards par an, pour le total. Donc, pas par an, total. Donc, ça, c'est pris en compte. D'un autre côté, sur l'avenir, les nouveaux réacteurs, là aussi, vous mettez le chiffre que vous voulez. J'ai publié 5000 euros d'investissement par kilowatt. Enfin, vous savez ce que ça veut dire. Et c'est vraiment pas rien. C'est à peu près le même chiffre que ce que fait l'ADEME.
Bon. C'est beaucoup moins que le PR.
Donc, 30% de moins. Oui, naturellement. Naturellement. Ce qui est normal.
Oui, facile.
Vous avez 10 ans, 12 ans de production. Vous financez les gens, vous payez les gens à rien faire. Vous allez payer les taux d'intérêt intercalaires. C'est tout à fait normal.
Mais alors, justement, sur la compétitivité. Sur la compétitivité de ce nucléaire de nouvelle génération.
Alors, la compétitivité, là aussi. Tous ces scénarios permettent d'avoir les dépenses totales, et c'est ce qui compte. Et si vous avez une augmentation, je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous avez une augmentation de la consommation d'électricité de 100 à 200, enfin, assez consistante pour les véhicules électriques et pour le chauffage électrique, remplacer le fioul et le gaz, alors, pour compenser les fluctuations qui deviennent très importantes, vous n'avez plus assez de biomasse. Donc, vous êtes obligé de stocker beaucoup. Donc, vous êtes obligé d'avoir des capacités d'éoliennes et de photovoltaïques. Tout ça se mesure, se montre sur les modèles.
Et puis, il y a un autre aspect qui est essentiel. L'un des obstacles au développement des énergies renouvelables, c'est l'acceptabilité sociale de ces énergies, en particulier de l'éolien.
Autrefois, les éoliennes faisaient 100 mètres de haut. Maintenant, c'est 185 mètres. Et les prochaines, c'est 235 mètres. Les promoteurs ne veulent pas éloigner, par exemple, la distance des machines, des habitations. C'est scandaleux. 21 députés déposent un amendement pour essayer de reculer les machines. Mmh. Il est balayé. Actuellement, c'est une mainmise financière sur cette affaire d'éoliennes. C'est pas du tout une affaire d'écologie. C'est pas une affaire d'électricité, parce qu'ils n'en fabriquent pratiquement pas. 8000 éoliennes... Actuellement, sur le territoire français, c'est 4% de notre électricité. Faites des règles de 3, si vous voulez vraiment en mettre beaucoup d'électricité.
Mais on a moins d'éoliennes que dans d'autres pays d'Europe.
C'est pas une raison.
Grande-Bretagne...
J'en ai marre d'entendre, on est en retard sur l'Allemagne. Actuellement, qu'est-ce qui se passe concernant l'éolien? C'est eux qui ont les industries qui fabriquent les machines. On ne fabrique pas une machine en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez une éolienne qui arrive sur la France, c'est actuellement 3 millions d'euros. Faites le calcul, 10 000 éoliennes, c'est 30 milliards.
Jean-Louis Butré, ancien physicien et icône des anti-éoliens en France, il était sur RMC le 21 juin 2018. Une réaction, David Marchal, aux propos qu'on vient d'entendre, et avec cette autre question qui est comment mieux faire accepter la présence aujourd'hui de parcs éoliens ou solaires?
Monsieur Butré a raison, dans le sens où une éolienne modifie le paysage. On ne peut pas dire l'inverse, une éolienne modifie le paysage. Après, là où je ne rejoins pas du tout ses propos, c'est sur la question de la manipulation financière. Enfin, y a pas enfin, comme tous les investissements, effectivement, y a des banques qui rentrent au capital, des parcs éoliens. Et après, je crois que la question à se poser, c'est celle, effectivement, de l'acceptabilité sociale, mais pas au sens de convaincre les gens, mais non. Ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens, de collectivités qui veulent des éoliennes, qui se rendent compte que le vent sur leur territoire a de la valeur, peut produire de l'énergie, peut rapporter.
Donc ça doit passer par la concertation, par exemple.
La concertation, ou ce qu'on appelle l'investissement participatif ou citoyen, c'est-à-dire des collectivités ou des citoyens qui financent ensemble, via des plateformes de crowdfunding, via d'autres types d'investissements, des éoliennes sur leur territoire.
Il y aurait encore de nombreuses questions, mais c'est la fin de ce débat, malheureusement. Merci beaucoup Yves Marignac, David Marchal et Henri Prévost d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je citerai un autre de vos ouvrages, Henri Prévost, Trop de pétrole, énergie fossile et réchauffement climatique paru au Seuil. Un grand merci à tous les trois. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du traitement des déchets radioactifs en France.
Oui, il faut dire qu'après le grand débat national, les Français sont à nouveau appelés à se mobiliser et à donner leur avis dans le cadre du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, ou PNGMDR pour les intimes. Car comme l'explique le journaliste au Monde Pierre Le Hir, dans un pays aussi nucléarisé que la France, qui compte 58 réacteurs en activité, des usines de fabrication et de retraitement de combustible, l'ensemble de la population est en prise plus ou moins directe avec les déchets radioactifs. Des résidus bien souvent invisibles, cachés dans les méandres d'une installation scientifique ou emmenés au loin par les fils anonymes de trains banalisés.
Une carte publiée par l'association Greenpeace a d'ailleurs fait grand bruit en recensant les 70 principaux sites de stockage des déchets nucléaires.
Oui, une carte qui entend faire la transparence sur l'omniprésence des déchets atomiques disséminés autour de nous comme autant de traces indélébiles d'une industrie que l'on voulait croire propre. C'est ainsi une kyrielle de points jaunes, de lignes orangées qui maculent notre bel hexagone. Greenpeace retrace ainsi les lieux d'activité, mais aussi les lieux de passage, les gares, les routes où l'on fait transiter ces montagnes de déchets. L'objectif de l'association est ainsi de rappeler qu'au-delà du 1,6 million de mètres cubes répertoriés par les autorités, il existe une quantité phénoménale de matériaux radioactifs parsemant notre territoire sans être officiellement classifiés, cartographiés, identifiés pour le plus grand nombre.
Certains parlent ainsi d'un stock réel d'environ 200 millions de mètres cubes de résidus radioactifs en France.
Oui, ce sont les chiffres donnés par la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, une association qui a mené plusieurs campagnes de terrain afin de mesurer la présence des matériaux actifs. Parmi ces déchets oubliés figurent ainsi les rebuts des activités minières, ces millions de tonnes de roches excavées pour atteindre l'uranium. Il faut en effet se rappeler qu'entre 1947 et 2001, 250 gisements d'uranium ont été exploités sur le territoire français. Or, ces roches contenant des métaux lourds radioactifs ont été bien souvent réutilisées pour emblayer les chemins, aménager des terrains de sport ou servir de soubassement à nos habitations.
Le journaliste du Monde nous parle ainsi de la petite ville de Guignon en Saône-et-Loire, dont le stade a été construit à proximité immédiate d'un de ses sites d'enfouissement.
Mais oui, 20 000 tonnes de déchets radioactifs déversés par une ancienne usine de traitement d'uranium exploitée jusqu'au début des années 80. Il a fallu attendre 2009 pour que le terrain vague soit interdit au public, gardé par une vague barrière aisément franchissable. Ce n'est qu'au début de l'année 2019 qu'un grillage a été installé et que le site a été classé. Comme le rappelle Le Monde, récupérer ces quelques 200 millions de mètres cubes, les conditionner et les transférer vers les centres de stockage serait un chantier colossal au coût faramineux. En attendant, c'est donc la quasi-totalité de l'hexagone qui est contaminée. C'est un poison qui s'écoule lentement, une tumeur imprégnée au grain même du bitume, des concrétions de roches envahies par l'atome. Et si ces résidus ont en réalité une faible radioactivité, ils pourraient néanmoins représenter un risque pour l'environnement et la santé. Un risque étalé sur une très longue durée puisque certains matériaux contiennent des isotopes de thorium-230, un élément radioactif qui ne disparaîtra que dans 750 000 ans. Difficile de dire ce qu'il restera alors de nos clôtures, nos barrières et nos interdictions.
Merci beaucoup Arjuna, et à vos côtés se trouve Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes venu avec le chiffre du jour, 16,3%.
Oui, c'était en 2017, la dernière année connue, la part de l'énergie que nous avons consommée qui était d'origine renouvelable. Cela fait de la France un très mauvais élève de la transition énergétique en Europe par rapport aux objectifs que l'Union s'est fixés dans ce domaine dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet climat. Nous nous étions en effet engagés nous-mêmes en 2008 à ce que 23% de notre énergie soit propre l'an prochain. Et selon toute vraisemblance, nous n'atteindrons pas cet objectif.
Et alors comment se situent les autres pays sur ce plan, Guillaume ?
Ben, nous sommes le deuxième pays le plus en retard en Europe sur ces objectifs 2020, derrière les Néerlandais. Mais 11 des 28 autres pays de l'Union les ont déjà dépassés en 2017. Et souvent dans des proportions importantes, de 6 points pour le Danemark et la Suède, de 3 points pour la Finlande, etc. Nous sommes aussi un des pays d'Europe où la part des renouvelables dans la consommation énergétique a le moins progressé depuis 2004, première année où ces statistiques ont été publiées en Europe. Entre 2004 et 2017, cette part n'a augmenté en effet en France que de 7 points contre 9 en moyenne en Europe, 21 au Danemark, 16 en Suède, mais aussi 12 en Italie. D'autres pays font certes encore pire que nous sur ce plan, mais en dehors une nouvelle fois des Pays-Bas, ce sont surtout des pays d'Europe centrale et orientale, comme la Pologne ou la Slovaquie. À l'inverse, cette part d'énergie d'origine renouvelable dépasse désormais 30%, le double de la France, en Suède, où elle est même supérieure à 50%, en Finlande, en Lettonie, au Danemark et en Autriche.
Et cela n'empêche pas cependant que nous soyons bien placés, Guillaume, en Europe sur le plan des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, en effet, cela tient pour une grande part. Si on ne tient pas compte, en tout cas, des émissions de gaz à effet de serre associées aux produits importés que nous consommons et qui représente désormais plus de la moitié des émissions dont nous sommes responsables directement ou indirectement. C'est lié, et vous en avez déjà discuté abondamment, à l'importance de notre parc de centrales nucléaires dans la production d'électricité. Mais celui-ci est vieillissant. Selon les prévisions du gouvernement, en 2035, les 44 réacteurs nucléaires qui resteront devraient encore produire la moitié de notre électricité. Or, ces réacteurs auront alors en moyenne 49 ans de fonctionnement derrière eux et 10 d'entre eux même plus de 50 ans, à condition que les autorités de sûreté les autorisent à continuer à fonctionner au-delà de cet âge canonique. Du coup, le risque qu'ils tombent en rade du fait de leur vieillissement sera très fort et les conséquences risquent d'être d'autant plus graves qu'ils sont tous du même modèle. Si un défaut apparaît sur l'un d'entre eux, il y a de fortes chances qu'il se reproduise sur les autres. Autrement dit, en traînant autant les pieds pour développer les énergies renouvelables comme nous l'avons fait jusqu'ici, nous nous plaçons nous-mêmes dans une situation extrêmement dangereuse sur le plan de la sécurité de notre approvisionnement en électricité dans 15 ans.
On se quitte avec Gasoline du groupe canadien Weaves. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un débat d'actualité économique qui sera consacré à la crise des hôpitaux. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
Culture, l'esprit d'ouverture.